Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
La nuit rêvée de Marie-Josée Malice. Bonsoir Marie-Josée Malice.
Bonsoir Alban Penaranda.
Un peu plus de minuit, bienvenue à vous dans les nuits de France Culture. Nous serons ensemble jusqu'à 7h du matin. Au fil des heures de votre nuit rêvée, les auditeurs et auditrices vont entendre les émissions que vous avez choisies pour eux. Dans un premier temps, nous écouterons une émission consacrée à Klaus-Michael Gruber, Hölderlin par Pierre-Jean Jouve, Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville et Tadeusz Kantor. Puis, au programme de la seconde partie, les immigrations espagnoles, Pierre Auvernet, Jacques Lacan et Alain Badiou, un foyer de travailleurs maliens à la veille de sa fermeture, et enfin, Fernandel. Pour vous, Marie-Josée Malice, il ne peut être question de s'accommoder du monde tel qu'il est, et votre nuit rêvée sera à votre image. Au souvenir des luttes, des destinées des plus déshéritées, des plus fragiles, d'hier et d'aujourd'hui, se mêleront les voix d'artistes, de poètes et d'intellectuels parmi les moins soumis. Vous croyez que changer le monde est possible, sinon vous ne feriez pas de théâtre. Vous croyez cette transformation possible et le théâtre peut, d'après vous, y contribuer. En 2014, vous avez pris la direction du théâtre de la commune d'Aubervilliers avec la volonté fièrement affirmée d'y proposer un théâtre pour tous et d'y faire naître une pensée pour un monde nouveau. Tout au long de cette nuit avec vous, qui croyez à l'égalité de tous devant la beauté, nous verrons ce que peut être aujourd'hui ce pour tous du théâtre, ce que peut être un théâtre envisagé comme un projet collectif, en un temps, selon vous, dépourvu de nous constitués et souverains. Que votre très haute idée du théâtre et l'exigence qui en accompagne la pratique ne fassent pas l'unanimité, faut-il s'en étonner? S'il vous est arrivé de diviser, vous l'affirmez clairement, mon intention n'est pas de diviser, en ajoutant que vous êtes prête, pour autant, à payer le prix de cette division. Diviser, Marie-Josée Malice, est-ce inévitablement le lot de ceux qui ont l'ambition de rassembler et être minoritaire aujourd'hui, est-ce l'indice que l'on est dans le vrai?
Je ne sais pas si c'est l'indice qu'on est dans le vrai, mais en tout cas c'est en effet quelque chose qu'il faut être prêt à assumer et en tout cas ne pas croire que en politique comme en art, c'est ce qui est majoritaire qui est forcément l'indice du vrai. Voilà, souvent, je crois qu'on se désespère en politique parce que on n'est pas assez nombreux, parce que on n'est pas majoritaire en effet, et donc souvent on subordonne l'action à sa capacité à fédérer tout le monde, et on se dit que tant que tout le monde ne sera pas là, c'est pas la peine d'y aller. Or, je pense que toutes les grandes choses qui se sont passées dans la destinée humaine ont d'abord été des actes minoritaires, en fait. Et donc, il faut simplement se souvenir de ça et du coup, être patient et ne pas s'affoler si au départ, on est peu nombreux. Ce qui ne veut pas dire qu'on doive en tirer de l'arrogance, n'est-ce pas? Et penser que c'est parce qu'on est peu qu'on a raison. Enfin, ce n'est pas du tout la question. Mais simplement, inverser les termes et ne pas être soumis aux critères de la majorité, c'est tout.
Et ne pas avoir peur de diviser pour mieux rassembler.
Ah oui, ça, je pense quand même que c'est quasiment la moindre des choses en art ou dans le travail intellectuel, en fait. Parce que s'il s'agit de présenter les choses, les problèmes en nouveauté, hein, de montrer d'une manière différente, nouvelle, faire apparaître quelque chose qui était invisible jusqu'alors, évidemment, ça ne peut que provoquer du trouble. Parfois, la grâce fait que immédiatement, ça emporte l'assentiment de tous, mais c'est très rare. D'habitude, il y a d'abord, et c'est normal parce que l'animal humain tient à sa sécurité, à son confort, à son repos aussi. Donc s'il se sent perturbé dans ses représentations, il objecte, il renâcle. Donc c'est normal que d'abord, les nouveautés de la pensée comme les nouveautés de l'art provoquent en effet des réactions qui leur sont contraires. Et ce qu'on appelle une division, un clivage, ça me paraît la moindre des choses. Et au fond, je crois que même que c'est la malédiction des intellectuels que de ne pas l'envisager comme la moindre des choses et d'être apeuré à l'idée de diviser. Ça, c'est des enseignements que je tiens de Pasolini, hein, qui considérait que être hérétique ou subversif, la belle affaire, c'est le travail des intellectuels depuis Socrate, en fait.
Marie-Josée Malis, avant d'écouter d'ailleurs Pasolini un peu plus tard dans votre nuit, plongeons-nous dans votre programme d'archives. Vous avez choisi d'ouvrir cette nuit avec Klaus-Michael Gruber. Nous écouterons le premier volet de la série « Écrits de metteurs en scène » proposée par Louis-Do de Langzin en 2009. Une évocation de Gruber qui vous a beaucoup touché, m'avez-vous dit?
Ah oui, j'étais très touchée parce que d'abord il y a la rareté hein, des archives qui concernent Gruber. On entend très peu souvent sa voix, on le voit très peu. Mais surtout ce qui m'a touchée, c'était une affirmation extraordinaire où, qu'il prononce dans cette émission qu'on entend. Il dit « j'ai l'avantage d'être très faible ». Et il explique du coup son pouvoir de metteur en scène, son charisme de metteur en scène. Il l'explique par cette faiblesse, cette extraordinaire fragilité, qui fait que du coup le commandement qu'il émet vers les acteurs est un commandement qui est prononcé dans un corps très très fragile et qui fait que les acteurs sont quasiment spontanément comme ça amenés à se pencher vers lui, à accueillir ses consignes. Comme s'ils en étaient responsables, vraiment, comme on est responsable d'un vase qui pourrait se briser. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique, en fait, l'idée que, au théâtre, par exemple, le rapport de pouvoir peut être de cet ordre-là. C'est-à-dire que quelqu'un peut essayer de guider, mais il guide au nom de sa fragilité. Ce qui est magnifique et qui pourrait être aussi une idée pour la politique, en fait, que l'on soit guidé par les plus fragiles d'entre nous et que tout l'enjeu de la société, de l'organisation et donc de la construction des formes aussi soit de faire la place, hospitalité, de faire un monde qui accueille les plus fragiles en fait et qui soit sous leur orientation.
Peut-on parler de solitude à propos de Gruber?
Sans doute, je ne l'ai pas connu en fait et donc j'en ai une image comme tous les gens de ma génération. Complètement idéalisé. Je pense qu'au fond, Gruber devait être quelqu'un de très empirique, très très concret. Si ce n'est que pour nous, il est devenu une sorte de symbole de la du metteur en scène, une sorte d'idéalisation du metteur en scène. Et ce qui vient aussi de la beauté de ses spectacles qui comportaient tant de silence et de prosaïsme, en fait. Une espèce comme ça d'amour de la réalité. Extraordinairement concrète, chaque élément était considéré presque dans sa valeur sacrée, mais au sens de sacré profane, c'est-à-dire de indestructible, intouchable. Et du coup, oui, on imagine ce type très très seul, à la parole rare, très comme ça aussi. Cherchant une fraternité absente. La légende dit qu'il la cherchait souvent auprès des clochards, à l'aube. Et donc, oui, quelqu'un qui avait une idée absolue de la fraternité et qui avait du mal, j'imagine, à la trouver réalisée dans son époque, en fait.
Et cette solitude, est-ce que ce n'était pas, au fond, celle de tout metteur en scène, celle du poète qu'il était sans doute, celle d'un Allemand né en 41, chargé du poids de l'histoire de son pays? Comment la comprendre? Comment interpréter cette solitude?
Ah oui, vous avez raison de rappeler tout simplement qu'il était Allemand. Et en ce moment, au Théâtre de la Commune, enfin, ces derniers jours, on a accueilli Mathias Langhoff, qui est venu présenter la mission. Et Mathias Langhoff me disait que lui aussi a eu une jeunesse allemande après-guerre. Et il me disait que ses parents ne comprenaient pas le petit garçon qu'il était. Et il m'a dit un truc bouleversant. Il m'a dit que, en fait, ses parents, eux, ne voyaient pas la réalité de l'Allemagne après la guerre. Parce que ses parents étaient des intellectuels de gauche qui rêvaient de reconstruire cette Allemagne et qui, du coup, déjà l'idéalisaient, en rêvaient le futur. Et lui me disait qu'il la voyait telle qu'elle était. Et il me disait, j'étais un enfant au milieu d'adultes qui avaient des regards de loup. Et cette expérience de la sauvagerie latente des humains qui m'entouraient, je ne pouvais pas la communiquer à mes parents, qui qui, eux, rêvaient le futur, en fait. Et je crois qu'en effet, la splendeur du théâtre allemand, qui pour nous est indépassable, hein, je veux dire, pour cette deuxième partie du XXe siècle, je pense qu'elle est liée, en effet, à ce que l'Allemagne a dû traverser de négativité, et comment le théâtre, là, a été saisi comme outil de reconstitution subjective, de possibilité de continuer à exister encore après un désastre pareil, hein, je crois.
Pour Gruber, le metteur en scène, c'est un homme qui parle de la beauté, Marie-Josée Malice.
Ah oui. En fait, c'est un mot, je crois qu'il est en train d'être réhabilité, le mot beauté, parce que on l'a souvent, longtemps, hein, considéré comme un mot académique, et le beau contemporain, le geste artistique contemporain, consistait à dire que, voilà, il n'y avait pas de définition du beau, que souvent, c'était, le beau était kitsch, et c'était le mauvais goût de la petite bourgeoisie. Mais je crois que si on en revient tout simplement à la philosophie grecque, le beau, c'est toujours la manifestation de ce qui est juste. Donc c'est la possibilité, comme ça, les signes envoyés de ce qui, dans les organisations sociales, mais aussi l'organisation des signes, qui est une œuvre d'art, le signe envoyé que là, on peut vivre. Là, on peut respirer. Là, on peut même sentir qu'on pourrait se développer pleinement. On peut, avec telle œuvre, être en bonne compagnie. C'est pas toujours des compagnies douces, d'ailleurs, les bonnes œuvres. Hein. La beauté n'est pas toujours lénifiante, mais elle rend justice. Je pense que, du coup, je pense que c'est de ça que parle Gruber, au fond, qu'il y a par-delà les simulacres, par-delà les fausses vérités, par-delà les mensonges, il y a une tâche qui est de retrouver l'endroit où on se sent renaître, on se sent de nouveau vivant. Et je pense qu'il le faisait avec les acteurs, d'ailleurs. La première tâche, c'était de réveiller ce point chez les acteurs, de leur rendre entièrement le sentiment de leur vie, de ce qui coule en nous comme énergie réelle. Et puis, évidemment, il le faisait pour les textes, en fait. Mais moi, je lis la beauté à la question de la justice, en fait.
Marie-Josée Malice, le programme se poursuivra avec Pierre-Jean Jouve, racontant la folie et le génie de Hölderlin sur la chaîne nationale en 1951. C'était quoi pour vous la folie d'Hölderlin et c'était quoi son génie ?
La folie d'Hölderlin, à mon avis, elle est strictement politique. Je pense que c'est le poète qui assiste à la Révolution française depuis l'Allemagne, qui envoie l'échec, et qui en même temps en a, compris, espéré, incorporé toutes les espérances. Espérances strictement égalitaires. Donc je crois que ce qui a fait rupture chez Hölderlin, ce qui l'a fait sombrer, c'était d'assister à cette chose effroyable qui est à la fois d'assister à un pur miracle de la politique, politique de pur soleil, dit Pasolini, le moment où le monde se soulève, et dans un même mouvement, d'assister à son effondrement et à un mouvement inverse, qui est un mouvement de stricte réaction. Et je pense que Hölderlin simplement prononce que lui ne peut plus vivre raisonnablement dans un monde qui n'a pas supporté le poids de la beauté, l'annonce de la beauté. En même temps, je pense que dans ce retrait, et c'est tout ce qu'il a soutenu toute sa vie, enfin dans son œuvre, dans ce retrait, je pense qu'il prononce que lui, il maintient vivant, latent, disponible, quelque chose de totalement intégral qui concerne en effet la nouvelle révolutionnaire, l'idée que l'égalité, c'est quelque chose qui sera là un jour pour les hommes, qui a été là et qui pourra être là. Donc je pense qu'il y a un mouvement comme ça qui consiste à se retirer, parce qu'on ne peut pas le vivre dans l'époque, mais en même temps, se retirant, on en maintient comme ça l'intégralité, la pureté. Et pour moi, le génie de Hölderlin, ça a été de prononcer que, en fait, on veut tous transformer le monde, mais simplement Hölderlin a signalé quelque chose d'inouï au fond, qui était que d'habitude on veut le faire à coup d'idéalisme, à coup d'idées qui passent par-dessus le monde tel qu'il est. On a une on passe par-dessus. Et son enseignement, c'est de dire non, il va falloir beaucoup se concentrer sur ce qui est là sous nos yeux, ne pas passer en force au nom de nos idéaux, mais réellement transformer ce qui est là sous nos yeux. Et rien ne doit faire violence au réel. Donc il faut faire avec les gens qui sont là, il faut faire avec la matière qui est là, et on ne peut pas décider que nos idées impliquent qu'on doive détruire ce qui est là. On doit transformer ce qui est là. C'est une idée géniale, en un sens. Et qui reste pour nous à accomplir, puisque on sait que les révolutions ont été des idéalismes qui sont passés par-dessus les gens. Et qu'aujourd'hui, il va bien falloir trouver un autre chemin de la transformation qui soit un chemin non négociable. Il faut transformer, mais en même temps qui implique le moins de destruction possible, en fait, et qui soit ce qu'il appelait un prosaïsme, un amour du monde, de ce monde-ci. Amour de la terre, disait-il, et non du ciel.
En 2014, vous avez monté Hyperion, d'après Hölderlin. Comment expliquez-vous, avec le recul, l'hostilité parfois virulente avec laquelle a été reçu votre spectacle à Avignon, par exemple, Marie-Josée Malice?
Je l'explique parce que je pratique d'abord un art qui cherche justement à se défaire, enfin un théâtre qui cherche à se défaire de sa puissance. Donc c'est strictement cohérent d'ailleurs, parce que Hyperion était quand même une méditation là-dessus, hein, sur le fait que nous devons renoncer à l'idée du pouvoir et de la possession. Donc moi je fais du coup un théâtre qui est en effet assez fragile, qui n'est pas un théâtre qui impressionne les gens par un art de l'acteur surexpressif. C'est un théâtre très doux, et c'est un théâtre aussi de la pensée. Or, ce mélange de douceur, de fraternité stricte, d'un art qui renonce à faire de l'esbrouffe, qui renonce à dispenser une leçon, qui renonce aussi à fasciner par sa puissance, plus un théâtre qui demande aux gens de penser et non pas de se laisser impressionner, provoque de l'hostilité, en effet, parce que c'est vrai que moi je fais partie des artistes qui aujourd'hui encore, je crois, c'est pas un titre de gloire, vide le plus les salles, alors que quand je regarde ce que je fais, ça n'a pas du tout de dimension scandaleuse à première vue. C'est vraiment des gens qui pensent devant nous, enfin, bon, donc c'est pas, sauf que je crois en effet que, comme le disait Lacan, il y a une passion de la paresse et de l'ignorance. Et le fait d'inviter à penser est déjà comme une provocation. Aujourd'hui, au théâtre, on veut du spectaculaire, on veut des affects unifiés autour de quelque chose qui impressionne. Voilà, il y avait ça. Et puis, par ailleurs, je pense quand même que c'était le texte. Un texte extraordinairement violent à certains égards, et qui dit en un sens que, au fond, notre tâche aujourd'hui, c'est de bien examiner ce qui est encore vivant et ce qui est mort, et qu'il y a énormément de choses auxquelles on croit mais qui sont mortes, qu'il faut donc prononcer leur mort. Voilà, c'est un texte donc qui touche presque à des tabous, enfin à des choses auxquelles les gens sont attachés, et notamment évidemment la représentation qu'on se fait de l'État. Et puis un texte qui dit donc il va falloir qu'on pense très très sérieusement quels sont les chemins nouveaux de l'action politique, et qui l'examine avec beaucoup de précaution et de rigueur, en fait. Et je crois qu'en fait à Avignon, les gens attendaient une grande messe très unitaire sur l'idée que youpla boum, la jeunesse va se révolter, la banlieue va se réveiller, enfin je sais pas quoi. Imaginez que, parce que j'étais directrice du théâtre de la commune, j'allais faire un grand spectacle œcuménique sur les printemps arabes, je ne sais quoi, et pas du tout une chose aussi sérieuse.
En montant Hyperion d'Hölderlin, vous mettiez vos pas dans ceux de Gruber, de Cantor et de Vitesse. Est-ce qu'il y avait chez vous la volonté de vous inscrire dans la filiation de ces trois-là?
Oui, parce que je pense que le théâtre est une chaîne. Je pense que c'est très beau de, comment dire, d'abord d'affirmer que le théâtre, c'est un peu polémique de ma part d'affirmer que le théâtre existe, alors que la plupart des gens qui font du théâtre aujourd'hui disent qu'ils font pas du théâtre. Ils font, je sais pas quoi, de l'art, de la du pluridisciplinaire, enfin. Le théâtre a souvent été, ces derniers temps, taxé de ringardise. Et moi, je dis non, le théâtre est une discipline qu'il faut considérer comme telle et dont il faut simplement chercher la modernité. Il ne s'agit pas de faire du théâtre conservateur, mais il faut chercher la modernité du théâtre. Et du coup, pour la chercher, je pense qu'il est très important, en effet, de considérer qu'on est à l'intérieur d'une chaîne et qu'il y a des choses qu'on reprend de l'héritage, des choses qu'on met de côté. Comme le disait Walter Benjamin, en fait, souvent, il disait que l'imitation est révolutionnaire. Imiter les maîtres, imiter ceux qui nous ont précédés, c'est le chemin de la révolution. Non pas parce qu'on fait les mêmes choses à la surface, mais parce qu'on se remet face aux mêmes nœuds, aux mêmes carrefours, aux mêmes questions qu'ils ont dû résoudre. Et on doit décider pour nous-mêmes comment, cette fois-ci, on va les résoudre. Et je trouve ça très beau, en fait. Je trouve ça très très beau. Et au théâtre, ça m'arrive souvent de penser, tiens, ah oui, là je comprends maintenant pourquoi telle question était si importante pour Vitesse. Ça m'importe beaucoup.
Au programme de votre nuit, Marie-Josée Malice, une autre figure du théâtre du XXe siècle, Tadeusz Kantor. Nous l'écouterons au micro de Anouk Adelman dans Notre Temps en 1972. Quel héritage Kantor vous a-t-il laissé à vous, gens de théâtre, et plus largement aux artistes?
Moi, je me souviens quand j'ai découvert Kantor, j'avais 20 ans, il y avait une rétrospective à Chaillot, et puis il y avait eu un colloque de 2 jours. J'avais assisté au colloque. Ensuite, j'étais rentrée chez moi dans ma petite chambre normale sup, et puis je m'étais allongée par terre, comme ça, pendant des heures, et j'étais comme quelqu'un qui avait, je sais pas quoi, reçu la révélation. J'étais comme un peintre qui aurait rencontré Picasso. Et pendant ces heures, je me suis demandé si moi, je pouvais continuer à rêver de faire du théâtre. Tellement la rencontre était puissante. Et pour moi, Kantor, ça a été l'apparition du théâtre, dans toutes ses coordonnées élémentaires, en fait. Chez Kantor, les acteurs qui entraient sur scène nous faisaient sentir ce que c'était qu'entrer sur scène la première fois. Ils nous faisaient sentir aussi quels étaient les liens très puissants du théâtre et de la psyché, de la subjectivité, des tréfonds intimes. Et en même temps, il nous faisait sentir les liens du théâtre et de l'histoire. Il réveillait les liens du théâtre et de l'invisible, cette grande tradition qu'a le théâtre avec les morts. Et c'était un maître de l'avant-garde, c'était un des premiers avec Bob Wilson, etc., qui en même temps nous montrait que le théâtre pouvait être aussi haut dans son audace que Marcel Duchamp l'avait été pour la peinture, en fait, que quelque chose de l'art contemporain, des grandes aventures modernes, pouvait concerner le théâtre. Donc pour moi, ce type était tout, en fait, était l'artiste par excellence, quoi. À la fois un maître total du théâtre, réveillant ses coordonnées archaïques et fondamentales, et les propulsant comme ça dans le strict XXe siècle, enfin. Et en plus, ce qu'il en reste, malheureusement pas assez, c'est que le type, l'individu était génial et il était capable de colère. Il avait une puissance de scandalisation qui, pour moi aussi, est restée comme une leçon. Kantor, vous savez, il se mettait en scène dans sa colère. Il avait des impulsions colériques et puis ensuite il les cultivait. Il les faisait monter comme ça, comme une espèce de mayonnaise, parce que sa colère chez lui était toujours l'indice d'un insupportable politique, en fait, que quelque chose était prononcé pour l'humanité qui était intolérable. Et il était effrayant dans sa colère. Et en même temps, c'était un barrage strict. On sentait que on ne pourrait pas passer. C'est-à-dire qu'il y opposerait toute sa puissance vitale, quoi. Et ça, je trouvais aussi que c'était magnifique de voir cette figure d'artiste comme ça qui, encore existentiellement, pouvait faire barrage de son corps à l'oppression, quoi.
Cantor a vécu le théâtre au cœur de l'histoire de la Pologne et de l'Europe du XXe siècle. Dans un entretien accordé à Guy Scarpetta, peu de temps avant sa mort, il disait avoir traversé l'occupation nazie, puis le temps de la Pologne communiste, en s'étant toujours senti libre. Comment comprendre ce que mettait Cantor dans le mot « liberté » ?
Ah oui, eh bien, lors de ce petit colloque là que j'évoque, moi, toute tremblante, je lui avais posé une question qui était « Mais vous avez connu en effet l'oppression nazie, et puis la Pologne socialiste, enfin, et vous avez toujours été un artiste subversif, mais qu'en est-il de notre génération ?» Et il m'avait dit un truc qui était incroyable, il m'avait dit qu'il nous plaignait, parce que il disait, moi j'ai pu être toute ma vie dans l'énergie du blasphème. Je savais qu'il y avait une autorité sacrée, en apparence sacrée, qui était méprisable, et je pouvais lui cracher dessus en continu. Et il disait, c'est une grande chance pour l'artiste. Je pense que c'est ça qu'il appelait la liberté. Et il disait qu'il nous plaignait parce qu'en effet, nous entrions, c'était les années, la fin des années 80-90, nous étions entrés dans une ère où nous n'avions plus que des murs en caoutchouc auxquels nous opposer. Et je crois que c'est ça qu'il désignait, en fait, le fait que pour l'artiste, évidemment, c'est très précieux quand il y a un ennemi objectif qui le met, lui, en position de blasphémateur, quoi, mais... Aujourd'hui, comment scandaliser.
Et vous, Marie-Josée Malice, est-ce que vous éprouvez le besoin d'être confrontée à un mur, de vous y cogner pour exister ?
Moi, de tout mon être, parce que je suis justement, j'essaye d'être darlinienne, ce qui est difficile, je crois qu'en effet, aujourd'hui, il faut arrêter de se définir par ses oppositions, mais il faut se définir par les quelques affirmations dont on est capable. Il faut donc chercher quelles sont les affirmations que je pourrais tenir. Je crois que c'est très important aujourd'hui d'arrêter de se définir comme chez Lacan, comme l'hystérique face au maître, arrêter de dire non, je ne veux pas, etc. Mais réellement, de se redonner la possibilité de dire comment nous voulons vivre. Ça, c'est très important. Le mouvement affirmatif du désir, c'est la grande tâche. Et au fond, tout le monde aujourd'hui est en capacité de dire ce qu'il ne veut pas. Mais si on demandait aux gens, mais finalement, avons-nous une idée valide de ce que nous voulons, de comment nous voulons vivre, du monde dans lequel nous aimerions vivre, on s'apercevrait que pour l'instant, les imaginations sont encore très, très faibles, très balbutiantes, encore très impressionnées par l'étendue des échecs et des désastres. Et à mon avis, la tâche, c'est celle-là. Donc évidemment, moi, par tempérament, je suis tout le temps en train de gueuler, je suis toujours très en colère, mais j'essaie de me courber vers une plus grande générosité affirmative. Et avec les jeunes gens que je rencontre surtout, j'essaie de faire en sorte que ce soit mon enseignement principal, de leur dire, mais créons des lieux, créons des instances de travail qui vous permettent à vous, jeunes gens, de nommer votre désir. Nommez le monde dans lequel vous voudrez vivre, parce que quand vous l'aurez un peu entrevu ou intuitionné, alors vous saurez porter votre énergie vers ça. C'est Rousseau qui dit qu'en fait, un individu ne peut pas se construire uniquement dans le non. C'est un malheur, en fait. Et que l'essentiel pour un enfant, par exemple, c'est en effet de lui donner le temps de son désir, lui donner le temps de l'enfance qui est le temps de la rêverie et de la construction d'un monde affirmatif. Avant de rencontrer le non, il faut avoir le temps du oui.
Chez Cantor, est-ce que l'on n'est pas proche de quelque chose qui est de l'ordre de la mystique du théâtre ? Et chez vous aussi, peut-être, Marie-Josée Malice ?
Oui, c'est un des problèmes que j'ai, moi. C'est-à-dire que j'ai du mal encore à trouver un vocabulaire qui n'emprunte pas à la mystique. Je pense que chez Cantor, c'est pas... je sais, au fond, je pense que Cantor était strictement athée. Hein, et en plus, il se revendiquait héritier des constructivistes russes, donc de Meyerhold, enfin, donc héritier réellement de la révolution bolchevique. Je pense simplement qu'en effet... Cantor a raison de dire que le théâtre est une expérience de concentration énergétique et spirituelle de très très haute intensité. Enfin, c'est un rituel, après tout, anthropologique, enfin, un rituel que l'humanité s'est donné depuis toujours, et qui en effet, comme ça, consiste à concentrer dans un espace et dans un espace-temps très très précis, à concentrer les grands problèmes de l'humanité et en même temps à envisager quelles sont les ressources dont l'humanité dispose. Et donc c'est vrai que il faut prendre très au sérieux la capacité énergétique du théâtre. Et il ne s'agit pas pour autant de le faire verser dans un mysticisme. Moi, j'essaie d'ailleurs en moi-même de combattre cette idée que ce serait du coup au service de forces spirituelles, extérieures, etc. Moi, je suis athée à cet égard aussi. Mais en revanche, je crois aux puissances spirituelles et énergétiques de l'humanité. Ça oui.
Maintenant, nous allons écouter quelqu'un qui, en 1969, était interrogé sur la forme de ses films.
Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de la forme de vos films. Dans vos débuts au cinéma, que ce soit pour Akaton ou Mama Romama, par exemple, vous avez adopté une forme très réaliste, à la fois de scénario, de récit, et dans la forme cinématographique. Or, dans les deux derniers au moins, s'il s'agisse de Théorème ou de Porcherie, vous avez gardé cette forme réaliste, mais vos histoires sont tout de même assez irréalistes. Alors, pourquoi avez-vous évolué dans ce sens-là?
Parce que la société dans laquelle je vis est changée. L'Italie des années 50 n'est pas l'Italie d'aujourd'hui. C'était une Italie populaire, agraire, pré-industrielle, etc. Et maintenant, l'Italie est devenue un pays néo-capitaliste. Elle a eu la plus grande évolution de son histoire, peut-être. Et alors, moi aussi, j'ai changé avec l'histoire de mon pays. L'Akaton, l'Évangile, etc., ont eu comme destinataire le peuple, comme classe sociale. Mais maintenant, on ne peut plus parler en Italie d'un peuple dissocié de la bourgeoisie. Aussi, en Italie, il y a la culture de masse. Et alors, je ne peux pas faire des films dont le destinataire est le peuple. Il faut que je fasse des films dont la destinataire, c'est la masse, et je ne veux pas. Parce que je ne veux pas accepter l'esclavage. L'esclavage, on dit esclavage.
Mais quelle différence faites-vous entre le peuple et la masse?
C'est une différence très, très difficile à exprimer pour moi que je ne parle pas français. Mais le peuple, c'est une chose concrète. C'est une classe sociale in carne et os, on dit en italien, vivant, concrète, physiquement vraie. La masse est une abstraction, oui, qui comprend toutes les classes sociales. Un phénomène de la civilisation de la consommation. Le peuple, c'est un phénomène pré-industriel.
Nous venons d'entendre Pier Paolo Pasolini au micro de René Villemay dans Cinéma Vérité à l'occasion de la sortie de son film Porcherie en 1969. Pourquoi vouliez-vous faire entendre la voix de Pasolini?
Pour la voix, déjà. Pour cette espèce d'étrange voix flûtée comme ça, douceur de Pasolini. Et puis parce que, pour moi, je suis comme tout le monde, je cherche des aides dans la vie. Et du coup, j'ai deux, trois aides, Hölderlin et Pasolini essentiellement, à vrai dire. Pasolini, parce que... Il est cette figure, en effet, totalement intègre de celui qui maintient la question de l'altérité, c'est-à-dire toujours demander qu'est-ce qui n'est pas résolu dans le monde, qu'est-ce qui reste autre, excepté, à côté, non pris en compte dans le monde, et que l'intellectuel et l'artiste doit traiter. Et on sait avec quel courage il l'a toujours fait, avec quel aussi, amour, en un sens. Enfin, comment aussi, chez cet homme, finalement, l'ambition intellectuelle, la tension intellectuelle, et en même temps le poids incarné de vie, le don de la personne, en fait, étrangement, ont été liés, hein, au point d'arriver à cette mort supplicielle, enfin comme ça, extraordinaire, en fait. Voilà. Et donc, des figures comme ça, elles sont comme des aiguillons. Et en plus, vous l'entendez, là, il dit un truc génial qui est très, très vrai pour le théâtre. Il dit, en fait, je peux plus m'adresser au peuple parce qu'il n'existe plus. Donc, ça, c'est une grande question pour, pour les gens de théâtre, en fait. À qui nous adressons-nous? Et Pasolini est un des premiers qui a dit, au théâtre, on fait toujours semblant de s'adresser au peuple. On fait toujours comme si le peuple était dans la salle. Donc on fait des spectacles comme ça, qui ont l'air de vouloir soulever les foules, etc. Et qui rendent content, en fait, la classe moyenne de gauche qui est dans la salle, qui la classe des enseignants, etc., qui hoche de la tête en disant « oui, c'est exactement ça qu'il faut dire au peuple ». Et donc il dit « c'est un pacte aberrant, strictement conformiste, qui ne travaille pas sur la réalité ». Qui ne travaille pas sur la réalité. Oui, le peuple n'est pas là et on fait comme si on s'adressait à lui. Et donc, il a dit, si on est sérieux, il faut qu'on fasse un théâtre qui s'adresse aux gens qui sont là. Et ça me permet d'ailleurs de revenir à cette question que vous me posiez sur Hyperion. Moi, je pense dans Hyperion, je m'adressais aux gens qui étaient là. Et je m'adressais donc à la classe moyenne progressiste. Et c'était elle que je venais scandaliser. J'y suis arrivé. Et je pense que c'est ce que faisait Pasolini aussi, qui disait, au fond... Il y a des conformismes de gauche, il y a de la bien-pensance de gauche, il y a des gens qui se sentent propriétaires des idées progressistes. C'est ces gens-là qui s'assoient dans une salle de théâtre, et c'est ces gens-là qu'il faut scandaliser. C'est à ces gens-là qu'il faut dire, mais attendez, vous êtes comme des petits propriétaires d'idées progressistes, et il y a quand même des choses que vous ne voyez pas ou que vous occultez, et le théâtre est là pour vous les faire toucher du doigt. Ouais.
Quand Pasolini dit « je parle avec un autre que moi », un spectateur idéal que je considère intelligent, cultivé, avec lequel j'ai un dialogue démocratique. Pourriez-vous prendre ces mots à votre compte ?
Je crois même que je les ai dit sans savoir que c'était du Pasolini, en fait. Ah oui, entièrement. Surtout aujourd'hui, on a souvent affaire à des objections un peu moralistes de la part du public. Les gens vous disent « mais vous faites pas attention aux autres, vous prenez pas en considération les autres, le niveau des autres ». Enfin, évidemment, c'est toujours un appel à abaisser le niveau. Alors, c'est des gens qui souvent parlent au nom des autres, qui considèrent que les autres sont plus bêtes qu'eux. Et cette espèce d'injonction moraliste, j'ai jamais comprise. Et j'ai toujours rétorqué ça, c'est-à-dire que, mais moi, je ne peux pas imaginer que les autres soient différents de moi. Donc, je juge par moi-même de ce qu'il faut faire, parce que j'estime que, la moindre des choses, hein, l'égalité et l'affect de la fraternité, il passe par l'idée que, les autres sont comme moi. Pourquoi dois-je tout de suite préjuger en tant qu'artiste que les autres sont plus, incultes ou plus... Enfin, voilà, moi je ne peux en effet m'orienter que par moi-même, en fait.
Marie-Josée Malice, c'est avec Cantor que se terminera la première partie de votre nuit. Mais auparavant, nous aurons entendu Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville. Ils étaient les invités de Claude Jean-Philippe dans le cinéma des cinéastes à l'occasion de la sortie du film « Je vous salue Marie » en 1985. Chez Godard, comme chez tous les artistes qui ont véritablement une œuvre, on peut distinguer plusieurs périodes. On reconnaît souvent ses détracteurs à la manière dont ils mettent en avant le Godard d'À bout de souffle, de Pierrot le fou ou du mépris, pour mieux rejeter ce qu'il a fait après. Quelle période de Godard vous intéresse ? Quelle période vous touche le plus ?
Bon, Godard m'intéresse de part en part. Parce qu'il est comme les plus grands artistes du monde, il invente tous les 4 ou 5 ans, il recommence un cycle de création comme Picasso en fait. Donc chaque cycle est passionnant parce qu'on se dit tiens ah voilà maintenant il travaille là-dessus ah. Et à chaque fois il fait réapparaître entièrement le cinéma. Après c'est vrai qu'il y a eu cette période des années 80 avec les grands films dont Je vous salue Marie, mais surtout qui culmine pour moi dans JLG, Autoportrait de décembre, des choses comme ça. Et puis évidemment les histoires du cinéma que je trouve incroyable parce que c'est comme s'il était à ce moment-là dans la pleine maturité. Il a à la fois une splendeur, une générosité qui est presque une forme de classicisme, on va dire, qu'il a toujours eu, Godard, au fond, qui est un grand lyrique, en fait. Mais là, qui se déploie entièrement, et en même temps, toutes les audaces de l'avant-garde, et une profondeur philosophique, poétique, enfin, tout est là, quoi. Mais je dirais quand même que dire ça, c'est peut-être pas lui rendre service, parce que, en un sens, c'est le moment, comme ça, où la beauté est la plus évidente. Et c'est pourquoi je tiens à dire que de Godard, tout m'intéresse. Tout est, comment dire, c'est comme si à chaque fois on était mis au pied du mur, quoi, de ce qu'est être spectateur de cinéma. On doit travailler avec lui à chaque fois qu'il fait une proposition. Et ça rejoint d'ailleurs une idée très très belle autour de l'art, une idée qu'avait Mallarmé, qui était l'idée que peut-être aujourd'hui, ce qu'il faudrait qu'on fasse, la meilleure manière d'être spectateur, ce serait de regarder des œuvres et puis de se réunir. Se réunir en petits groupes, entre amis ou pas, entre, et discuter tous ensemble des œuvres pour savoir ce qu'elles apportent au bien commun de l'humanité. Et je pense que Godard, c'est ça. Je pense qu'il fait des propositions et qu'au fond, tout l'enjeu, c'est de savoir comment on va être capable de décrypter ces propositions, comment on va être capable d'en faire usage. Alors évidemment, si on les regarde avec un réflexe de consommateur de cinéma habituel, on n'a pas usage, donc il faut en parler entre nous, essayer de comprendre quelles sont les allégories, et puis râler, protester, dire non mais là il exagère, et puis que quelqu'un dise non mais c'est génial. C'est ça, à mon avis, la proposition de Godard, c'est constituer ce que les romantiques appelaient les nouvelles églises, mais au sens, vous savez, les premières communautés, des Esséniens, etc., qui étaient là pour rebâtir entièrement une civilisation. Et je crois que c'est ce qu'il nous propose, en fait. Réunissons-nous, et discutons des symboles qu'il nous faut.
Et d'ailleurs, Godard dit que la dispute lui manque beaucoup aujourd'hui. Il regrette le temps des grandes discussions et des affrontements verbaux. Est-ce que vous avez, vous, le goût de la dispute, de la controverse?
Ah oui. Et d'ailleurs, on organise ça au théâtre, en fait. J'essaie de le mettre en forme, en fait. Donc j'ai mis en place des protocoles un peu comme ça, un peu rigolo et un peu sophistiqué, pour que revienne le temps, en effet, de la discussion après spectacle. Selon cette conviction que j'ai, en effet, que maintenant, en effet, la tâche, c'est que les artistes fassent des propositions et que les spectateurs en discutent et décident, comme on faisait dans les années 60, quand on s'engueulait, j'imagine, dans les ciné-clubs, décident si c'est bon pour nous, si c'est pas bon, pourquoi, etc. C'est très important qu'on rebâtisse, en effet, des collectifs dialectiques, discursifs, qui décident ensemble, par un travail commun, de, une fois de plus, en effet, quels sont les symboles, quels sont les signes, quelles sont les valeurs que nous voulons, qui nous font du bien. Voilà, il faut qu'on en décide ensemble. Hein.
Godard, Pasolini, les Straubes, que vous auriez pu mettre au programme de votre nuit, qu'ont-ils en commun? L'Europe, une manière, après Rossellini, de travailler un même champ historique, artistique, philosophique et politique, Marie-Josée Malis?
Ah oui, c'est très beau ce que vous dites. Oui, ils ont l'Europe, en effet, en commun. Mais moi, je crois qu'ils ont la passion de ce que Alain Badiou appelait la passion du réel. C'est-à-dire, ils ont en commun la littéralité. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne se payent pas de mots, qui n'acceptent pas les simulacres, qui n'acceptent pas les fausses représentations, qui essayent toujours de voir réellement ce qui est sous nos yeux. Et ça pourrait être une définition du communisme, en fait. C'est-à-dire que ne pas s'accommoder des récits, des représentations du monde qu'on nous sert, des explications qui concerneraient à justifier l'injustice, mais réellement voir ce qui est sous nos yeux, travailler avec, hein, le rendre visible, impossible désormais à ne pas voir, et proposer avec ça une autre réalité, une réalité concrète, nouvelle. Je pense que c'est pour ça que ces types ont révolutionné le cinéma, parce qu'il s'agissait de voir. Il s'agissait de voir ce qui est là, en fait.
Merci Marie-Josée Malis. Nous allons donc écouter les archives de la première partie de votre Nuit rêvée. Dans un instant, écrit de metteur en scène Klaus-Michael Gruber par Louis de Langzin en 2009. Folie et génie Hölderlin par Pierre-Jean Jouve en 1951. Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville dans Le cinéma des cinéastes de Claude-Jean-Philippe en 1985. Et enfin, Tadeusz Kantor au micro de Anouk Adelman dans Notre temps en 1972. Nous nous retrouverons dans un peu plus de 2h30 pour parler de la suite de votre programme. Les immigrations espagnoles, Pierre Auvernet, Jacques Lacan et Alain Badiou. Un foyer de travailleurs maliens à la veille de sa fermeture. Et enfin, Fernandel. À tout à l'heure, Marie-Josée Malice.
À tout à l'heure, merci.